Rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque. Chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Rhizome ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature.
Je m'appelle Viviane Salin, j'ai 42 ans, j'ai toujours du mal à le dire ça. Je suis mariée, j'ai deux enfants qui ont 11 ans et 13 ans et on habite à Singapour depuis 15 ans. Donc moi je suis française d'origine asiatique, enfin je suis née à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg avant de faire mes études à Paris et mes parents sont asiatiques. En fait ma mère est venue de Hong Kong. Elle venait rejoindre sa mère, qui est donc ma grand-mère maternelle, qui est la première à être partie de Hong Kong pour aller vivre son rêve d'artiste en Europe. Et du côté paternel, en fait, mon père est parti d'Indonésie pour étudier en France. Donc dans sa famille, ils sont 7 enfants et ils ont envoyé tous les garçons étudier en Europe.
Et donc je m'appelle Amanda, j'ai 29 ans. J'ai grandi à la campagne, dans un petit village. Je suis née en Inde, à Bombay. Je suis journaliste indépendante. Je suis sud-asiatique. Mais en fait, je dirais que je me sens un peu hybride parce que j'ai mis très longtemps, à cause de l'adoption, à pouvoir prendre conscience de qui je suis, à pouvoir mettre des mots sur la façon dont je pouvais me situer, en fait. Parce que j'ai grandi dans une famille blanche, dans un village à majorité blanche, et qu'il y avait un peu ce truc de, je pense par amour quoi, mais de mes parents adoptifs, de dire on voit pas les couleurs, et donc c'est plutôt en grandissant et notamment en rencontrant, les milieux militants et le milieu de la recherche, en croisant des mots comme racisme, discrimination, antiracisme, racisé. Que c'est des mots qui m'ont aidé à moi mettre justement des concepts et à pouvoir parler de ce que je ressentais de mon expérience, de mon vécu autrement.
J'ai grandi en France, j'ai fait HEC, j'étais à Paris quelques années, j'ai rencontré mon mari et on a eu très vite envie de partir de la grisaille parisienne, de partir à l'aventure, de tenter quelque chose, que ce soit en Asie ou ailleurs. En fait, on avait vraiment envie de changer d'air, tu vois. On était jeunes mariés, sans enfants, on voulait partir un peu au soleil. Ça aurait pu être franchement n'importe où. Et il se trouve que mon mari, Vincent, a eu une opportunité avec son travail et que ça a été à Singapour. Et voilà, donc en fait, Singapour, c'est anglophone. On s'est dit, c'est une porte d'entrée vers l'Asie. Ça va être facile de s'installer, tout le monde parle anglais. Et puis, on verra au bout de quelques années, on ira peut-être quelque part d'autre. Et en fait, non, ça fait 15 ans qu'on est installé ici. Nos deux enfants sont nés ici et voilà, on est toujours bien. On a vraiment pris racine et on n'arrive plus à partir quasiment.
Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais l'adoption, moi, je l'ai vécue en me disant que c'était clair dès le début que j'allais rechercher ma mère biologique et mon père biologique et mes frères et sœurs. Et on en parlait assez ouvertement, pareil, assez jeune, avec ma sœur et ma mère adoptive, très très vite. Ouais, c'était vraiment Enfin, à la fois on se disait on va retourner en Inde, et l'objectif derrière c'était toujours de faire des recherches, quoi, d'en savoir plus sur notre passé, et d'où on venait, et de retrouver potentiellement notre famille biologique, ouais.
C'est marrant parce que quand on arrive à Singapour, on doit cocher, en fait, on doit marquer une appartenance à un groupe ethnique, que ce soit pour un visa, pour demander la résidence, etc. Pour le visa de travail, il faut s'identifier. Donc soit tu es chinois, malais, indien ou autre. Les autres, ça regroupe les blancs, les métis. Donc ici, même les Eurasiens sont aussi dans autres. Moi, je me suis mise en chinoise parce que c'est vrai que j'ai quand même des racines chinoises. Du côté de mon père, ah oui, donc du côté de mon père, je sais pas si j'étais claire, mais en fait, il vient d'Indonésie et mon grand-père venait de Chine.
Ah, paradoxalement, en tant qu'adoptée, très vite, j'ai su que je venais d'Inde, que ma mère, elle nous parlait de ça très 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 jeune. Et en fait, c'était de toute façon, elle n'aurait pas pu nous le cacher, quoi. Ça se voyait sur nos tronches. Mais du coup, très vite, elle aussi, elle avait cette démarche de vouloir nous lier à nos origines, avec les moyens qu'elle avait, quoi, les moyens du bord, qui sont quand même assez pauvres en France. Pour parler de l'Inde, c'est assez. Enfin, tu tombes vite dans les clichés, quoi, dans ce qui est accessible facilement. Et du coup, oui, je sais pas, je me souviens qu'elle nous appelait dès qu'il y avait des films qui traitaient de l'Inde, qui étaient diffusés à la télévision. Elle essayait de louer des cassettes vidéo où ça parlait de l'Inde et de choses comme ça. Et même, en fait, elle nous le raconte aujourd'hui, mais elle disait, même quand vous étiez petite, en fait, c'est limite, je vous saoulais, en fait. Limite, je vous saoulais à toujours vouloir parler de l'Inde, en fait.
Pour moi, c'était très clair. J'étais française, avec des origines asiatiques. C'est mes parents qui portaient cette origine, si tu veux, pour moi. Et ma mère me disait toujours, mais toi, c'est écrit sur ta tête que tu es chinoise, tu rejettes un peu tes origines. Parce que j'avais du mal à apprendre le mandarin. Ma mère est prof de mandarin, mais j'avais du mal, moi, à
Ah
l'apprendre et à
oui.
le parler. Donc, quand mes parents se sont rencontrés en France, eux-mêmes se parlaient mandarin. Quand je suis née, c'était la langue commune à la maison. Mais j'avais du mal à répondre du fait d'aller à l'école en français. Pour moi, le mandarin, c'était quelque chose d'étranger, d'un peu bizarre. Enfin, j'avais pas trop l'intérêt de le parler juste avec mes parents et de pas avoir d'amis qui le parlent. Et puis, à l'école, tout est en français.
Enfin, j'ai mis longtemps, en tout cas, à mettre des mots. Je me souviens au lycée, par exemple, il y avait un truc fort d'antiracisme en moi, mais tu vois, c'était. Je me disais pas si je le fais pour moi aussi, quoi. Enfin, je pense qu'il y avait ce truc qui était rentré dans ma tête de pas me considérer comme racisée, justement. J'ai mis longtemps à me dire, mais en fait, c'est pas parce que t'as grandi avec des blancs que. Et d'ailleurs, j'ai mis genre très tard. Après ma majorité, j'ai réalisé que quand j'aurais des enfants, en fait, ils seraient racisés, quoi. Ils seraient pas blancs. Et ça, c'était assez fou de le réaliser très tard. Je me souviens qu'on avait une discussion avec des amis proches et ils m'ont dit, mais t'as vu l'âge qu'on a et tu réalises ça maintenant, quoi. Et ouais, je pense que vraiment, tu vois, il y a eu longtemps un truc de, je me sentais peut-être pas concernée, où j'étais un peu dans une bulle, ou et je pense qu'il y avait aussi tout ce truc d'école aussi, où on dit, en fait, enfin, en tout cas, je me souviens dans mon collège-lycée, où on fait tous des cours en disant qu'en gros, le racisme, c'est derrière, quoi. Le combat pour le racisme, c'est derrière, et comme si c'était plus actuel, en fait.
Voilà. Et donc, moi, j'étais toujours dans ma tête la française avec des origines asiatiques. Donc, ce qui fait que je suis un peu différente, que j'ai un visage différent, un physique différent. Mais pour moi, c'était plutôt un plus, si tu veux, un petit côté exotique. On me demandait toujours d'où je venais. Après, les gens disaient, ah, bah, c'est un beau mélange. Enfin, tu vois, c'était pas un problème en soi, en fait. Sauf peut-être à la maternelle où là quand j'étais toute petite, j'étais rentrée de l'école en disant, on m'a dit Shintok, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que je l'ai rejeté, mais c'était un petit peu une partie étrangère en moi, si tu veux. C'était pas quelque chose de dominant, c'était pas très important. Je le vivais pas en fait, j'en voyais pas l'utilité, je le sentais pas. Donc si effectivement on mangeait chinois à la maison, j'avais voyagé en Chine, en Indonésie, à Hong Kong, etc. Donc j'avais quand même des notions, j'avais une culture, j'apprenais toujours le mandarin sans arriver vraiment à le maîtriser. Voilà, après c'est peut-être plus avec la nourriture que j'avais des affinités, on va dire. Enfin c'est peut-être là que j'étais plus acculturée.
Et je sais qu'avec ma petite sœur, on en a aussi beaucoup parlé en étant plus âgée, mais nous, on s'imaginait en fait beaucoup l'Inde dans notre tête. Et très très vite aussi, elle est venue cette question du retour en Inde. Et on en parlait, je sais pas, même, ouais, vers. Je sais qu'à un moment donné, l'horizon, c'était quand on aura 10 ans, on y retournera avec ma mère. Bon, ça s'est pas fait. Mais enfin, il y avait vraiment un horizon, genre dès qu'on peut, on y retourne tout ensemble, quoi. Et il y avait cette volonté. Et j'y suis retournée, je sais pas, Si, j'avais 21 ans, je crois, en 2012, ouais. Avec ma petite sœur, finalement, on est retournées toutes les deux. Là, du coup, j'ai retourné dans le cadre de la fac, à Sciences Po, la troisième année, ils te proposent de partir à l'étranger. Puis en fait, quand j'ai vu l'Inde, j'ai pas pu passer dessus, quoi. Il y avait un partenariat qui était avec la fac de Madras, de Chennai, dans le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Et du coup, je suis partie dans ce cadre-là. Avec ma petite sœur, on est partie en été un mois avant que la fac reprenne pour atterrir exprès à Bombay, où on était à l'orphelinat toutes les deux. Elle est pas née à Bombay, ma petite sœur, mais elle est passée par ce même orphelinat que moi. Et donc, on est retournées là-bas toutes les deux. Et c'était assez... je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire, c'est très difficile de mettre des mots là-dessus. Ah, c'était très fort, et c'était très perturbant, je pense, aussi pour nous. C'était la première fois, je pense, aussi qu'on voyageait hors de France, hors d'Europe. Et ouais, et donc c'était un gros truc, quoi.
En fait, depuis qu'on est tout petit, mes parents nous ont vraiment trimballés partout. On a toujours voyagé, dans mes souvenirs les plus lointains, franchement. On partait soit avec une caravane, on partait en camping. On était toujours en vadrouille pendant les vacances. Et on est allé plusieurs fois en Asie aussi. Donc, ils m'avaient déjà emmenée à Hong Kong quand j'étais toute petite. Ensuite, en Indonésie, voir la famille. Voilà, donc c'était pas très régulier. Pas chaque année, bien sûr, pas comme moi, j'emmène mes enfants en France chaque année, mais j'avais quand même un aperçu de l'Asie. Je savais qu'on avait de la famille en Asie, j'ai des cousins, cousines ici, les frères de mon père sont venus aussi dans la région. Et donc l'Asie, pour moi, ça paraissait assez naturel, assez facile, même si, voilà, j'ai pas vraiment de racines à Singapour, mais c'était pour moi... une aventure sans être non plus complètement la folie, quoi. Sans partir complètement dans l'inconnu.
Et puis, il y a eu le moment de l'orphelinat aussi, de retour à l'orphelinat, qui était un peu... je pense qu'on avait longtemps romantisé dans nos têtes et qui finalement était un peu violent parce que les sœurs, elles étaient très un peu enfermées dans un discours très chrétien parce que c'est l'orphelinat de Mère Teresa. Donc un discours très chrétien et très... qui dépassait pas ce truc de dire c'est Dieu qui vous a amené ici et donc c'est Dieu qui vous a envoyé en France et donc vous devriez être contente, et qui nous enfermait encore dans ces trucs de gratitude envers les parents qui nous avaient adoptés et qui repoussait en fait toutes les interrogations qu'on pouvait avoir, quoi, de dire mais pourquoi vous voulez chercher autre chose alors que en fait vous êtes heureuse, vous avez droit à une éducation que vous auriez pas eu ici, vous avez la possibilité de revenir en Inde. De quoi vous vous plaignez, quoi. Et ça, c'était un peu violent, je pense, pour ma sœur et moi.
Parce que en venant ici, quand les gens me demandent d'où je venais, je répondais toujours française. Et effectivement, ça ne convenait pas aux gens que je réponde française. Parce que ils posent une deuxième question. Non, mais en réalité, tu viens d'où ? Enfin, tu vois, ça les dérangeait vraiment parce que pour eux, ils voyaient que j'étais asiatique. Enfin, ouais, tout le monde le voit. Mais ici, donc, les gens ont tendance à Dans le taxi, par exemple, à me parler directement en mandarin, parce que c'est quand même, y a quand même plusieurs dialectes ici qui cohabitent, malgré le fait que ce soit l'anglais la langue principale, mais il y a quand même le mandarin, le malais, le tamoul, enfin, il y a quand même beaucoup de langues et de dialectes sous-jacents qui sont parlés vraiment à Singapour. Et donc, on va s'adresser, peut-être pour moi, si je vais au marché ou dans le taxi, on va s'adresser à moi d'abord, peut-être en mandarin, tu vois. Et puis les gens vont voir que je ne suis pas tout à fait d'ici, que je suis un peu différente, donc c'est pour ça qu'ils demandent.
Et puis, je pense que notre physique faisait qu'il y avait beaucoup d'attentes qu'on ressentait dans les yeux aussi des gens là-bas. D'attentes, par exemple, de comprendre la langue, de la parler, de comprendre les codes culturels, qui étaient des choses que nous, on était complètement en train de recevoir et qu'on ne connaissait pas du tout. Et ça a donné lieu à des expériences un peu étranges. Et ouais, et d'autres expériences, comme je me souviens. Ensuite, du coup, on est parti à Chennai. On a pris le train toutes les deux. Et je me souviens de ce chauffeur de rickshaw qui parlait tamoul et avec qui, je pense, on s'est très mal compris dès le départ. Je crois qu'on a négocié tous les deux avec des anglais un peu approximatifs pour lui comme pour moi. Et quand on est arrivé, on n'était pas d'accord du coup sur le prix de la course, un truc un peu banal, quoi, mais comme ça. Mais en fait, vu notre physique, apparemment, en plus avec ma sœur, on a plutôt des physiques d'Inde du Sud, selon les gens. Et donc moi, j'ai commencé à lui parler en anglais. Et donc lui, il est passé en tamoul. Et pour lui, c'était vraiment un signe de mépris de ma part de lui parler dans la langue du colon. Et de pas... parce qu'il s'attendait, je pense, à ce que je parle tamoul, en fait. Et ça, il a craché à mes pieds et il est parti, quoi. Et donc, tu vois, tout de suite, je sais pas, j'ai vécu ça vraiment comme une grosse agression. Alors qu'en fait, je pense que lui aussi, il a vécu ça comme une agression que je respecte pas... que je lui parle dans la langue du colon, que je le prenne de haut, etc., alors que c'était pas du tout une volonté. Mais du coup, tout ça, c'est basé sur des préjugés et du physique, quoi.
Et donc, à chaque fois, je devais, si tu veux, comme si je devais toujours produire un justificatif d'origine. C'est un petit peu la charge mentale, la charge raciale, de toujours expliquer d'où on vient, pourquoi on est comme ça, pourquoi est-ce qu'on est français et que quand même, j'ai une tête de chinoise, une tête d'asiatique, qui n'est même pas tout à fait une tête de chinoise, tu vois, parce que je suis assez mate, assez foncée et que je ne correspond même pas vraiment au standard d'une chinoise de Chine. Donc vraiment, je suis difficilement identifiable, difficilement reconnaissable, on n'arrive pas à me mettre dans des cases, tu vois. Et j'ai remarqué que ça intriguait les gens. Bon, après, ça peut être de la curiosité saine, mais c'est vrai que quand c'est plusieurs fois par jour, quand c'est dans plusieurs contextes différents, c'est toujours un petit peu lassant, en fait. Donc voilà, donc je me suis vraiment rendu compte de ça ici.
Et il y a d'autres choses que j'ai mis du temps à comprendre, comme il y a un colorisme fort en Inde. Enfin, il y a une... Tu vois, quand j'étais dans le Nord, après, j'ai vécu à Delhi pendant 2 ans, non continu, une année en... 2015-2016 et une autre année en 2018-2019 où j'étais journaliste à Delhi pour une chaîne de télé française. Là-bas, c'était... On m'a par exemple plus dit, je sais pas, des trucs du style t'as la peau trop foncée ou on m'a appelant noire dans la rue par exemple parce que j'avais la peau plus foncée que le reste des habitants. Et que c'est perçu comme un signe de soit de basse caste ou de basse classe sociale ou comme un signe en gros dégradant, quoi. Enfin, avec tout ce délire de s'éclaircir la peau, etc. Alors que dans le sud, il y a peut-être plus de crèmes pour s'éclaircir la peau dans les magasins, accessibles plus facilement. Mais majoritairement, de toute façon, les gens ont plus tendance à avoir la même couleur de peau que moi, c'est-à-dire la peau plus foncée que dans le nord. Il n'y avait pas ce mépris pour ma couleur de peau, puisqu'on avait la même. Alors que dans le nord, je ressentais plus de mépris.
Maintenant, enfin, je comprends très bien pourquoi les gens sont confus, en quoi c'est drôle aussi. Voilà, je me mets à leur place et je comprends tout à fait ça. Je pense que j'ai pris du recul. Quelques années plus tard aussi, hein, tu vois, ça fait 15 ans que je suis là, donc forcément j'ai aussi vieilli, j'ai pris de la matière. Franchement, je comprends, et en plus j'ai des enfants qui sont nés ici, et c'est vrai que eux, ils sont encore dans une étape supérieure où leur père, il est français blanc, ils sont métis, nés à Singapour, ils n'ont jamais vécu en France. Et voilà, donc là, je me dis que eux, c'est encore un métissage plus poussé, qu'ils sont des enfants de la troisième culture et ils ont encore une expérience différente de la mienne. Mais bon, tout ça, c'est enrichissant, en fait.
En fait, je pense que quand même, il y a un fort sentiment d'illégitimité qui me travaille et qui m'a travaillé longtemps, je pense, par rapport à l'Inde, quoi. Parce que je me sentais assignée à l'Inde. Et moi-même, j'avais envie d'être liée à l'Inde, mais en fait, je ne connaissais pas grand-chose de l'Inde. Et du coup, peut-être ça m'a donné plus de confiance. Et ça m'a plus, je ne sais pas comment dire, enfin, c'est un peu des mots bateaux, mais tu vois, reconnecter à moi-même ou des choses comme ça, de pouvoir aussi faire cette expérience moi-même de mon pays.
Je me suis rendu compte que j'étais à la fois, oui, très française, mais aussi très asiatique et surtout très... non identifiable par beaucoup de gens. Je pense que le fait d'être en décalage, ça te permet aussi plus facilement après de repartir et de pas avoir peur de te sentir en décalage et de finalement ça devient une normalité presque d'être toujours un peu différent, d'être un peu unique en son genre, d'être toujours en décalage, que ce soit en Asie ou en Europe ou que t'as. De toute façon, les gens vont avoir des questionnements, quelque chose ne collera pas à 100%, ce sera pas complètement cohérent, il y aura toujours une sorte de dissonance entre toi, ce que tu ressens à l'intérieur, ce que les gens perçoivent de toi, etc. Donc en fait, il faut vraiment le prendre tel quel et l'accepter, quoi. Au final, c'est ce qu'on est et c'est le fruit de toute une histoire, c'est le fruit de plein de voyages, plein d'aventures. Donc,
le fait que je me sente pas légitime, il est toujours un peu là, quoi. Il est toujours parce que je pense que j'ai été longtemps coupée de ses racines et que je mesure l'absence de. Enfin, tu vois, le gap, il est quand même grand, quoi. Et le fait que il y a beaucoup de connaissances que j'ai besoin de réapprendre. Et là, par exemple, je me suis mise à apprendre l'hindi depuis 2015. Mais bon, ça s'entend quand je parle avec les gens là-bas. Ils me disent que t'es pas d'ici, quoi. Oui, je suis pas d'ici, effectivement. Mais à la fois, je me sens quand même plus en confiance de pouvoir discuter un peu quand même avec l'hindi que j'ai, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ça m'a donné plus de confiance ça m'a un peu plus rempli et ça a un peu atténué ce sentiment d'illégitimité que j'ai par rapport à l'Inde. À la fois enracinée en Inde et aussi fait bien prendre conscience, bien rappeler en fait où j'avais grandi et à quelle société aussi j'appartiens, quoi, dans laquelle j'ai évolué, etc. Ouais, je pense d'aller en Inde, ça a beaucoup plus conforté ce côté multiple identité, quoi.
Ça permet effectivement de réconcilier toutes ces facettes qui étaient en moi, qui peut-être se faisaient un peu la guerre ou qui se regardaient un petit peu en chien de faïence entre oh, moi, ça c'est mon côté français, ça c'est mon côté asiatique, mais il est un peu enfoui ou il est un petit peu mis de côté. Et maintenant, comme tu dis, c'est décloisonné, ça parle, ça circule, il y a une énergie, il y a une fluidité. Et en fait, toutes ces facettes se nourrissent les unes les autres, je pense. Et c'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre de cet étranger en soi, je dirais.
Y avait à la fois des côtés très, très agréables, quoi. Parce que je voyais aussi les autres étudiants blancs à la fac, par exemple, qui pour le coup était enfin, passait pas du tout inaperçu, et sur lesquels aussi, je pense, les gens projetaient aussi d'autres imaginaires et d'autres fantasmes, etc., notamment les femmes, en fait, blanches. Et en fait, moi, je sais que j'ai kiffé, par exemple, pouvoir m'asseoir dans un bus et juste, si, tant que je fermais la bouche, en fait, ça allait, je pouvais juste me faire oublier et juste vivre mon truc, juste vivre ma vie tranquillement. Et en même temps, il y avait ce truc aussi, je pense, où dès que, par exemple, j'étais avec des Blancs, ou par exemple, quand ma mère est venue quelques temps me rejoindre, soit j'étais prise pour la guide, soit j'étais regardée étrangement parce que j'étais avec des Blancs, et donc on se demandait, mais qu'est-ce qu'elle fait cette nana-là avec des Blancs, ou enfin, toute seule, quoi, sans autre homme, par exemple, ou si par exemple je m'allumais une clope dans la rue, il y avait aussi, enfin tu vois, il y avait aussi des trucs, mais parce que sans doute, enfin dans mon quartier en fait ça je le faisais, après dans d'autres endroits je le faisais plus, mais dans mon quartier à bout d'un moment je me suis dit bon bah vas-y, je vis ma vie, et si j'ai envie de m'allumer une clope je l'allume, en buvant un chai au chai corner du coin, si j'ai envie de m'allumer une clope je connais les mecs donc je le fais. Et il y avait quand même des regards insistants et des trucs comme ça, mais donc à la fois, c'est ça en fait, c'est toujours ambivalent, c'est qu'à la fois il y avait des côtés qui étaient agréables et il y avait des côtés qui étaient un peu plus dissonants, quoi, un peu plus, parfois un peu plus violents.
Ce qui caractérise les enfants de troisième culture, c'est le fait d'être dans une culture qui n'est ni la culture du pays où tu habites, ni la culture de tes propres parents. Donc, par exemple, nos enfants, ils sont nés à Singapour, mais ils n'ont pas la culture singapourienne, et ils n'ont pas non plus totalement la culture française, puisqu'ils sont nés ici, tu vois. Donc, même si on leur transmet le français, on leur parle en français, on essaie de leur transmettre la culture française, mais ils ne sont pas français comme nous, on a été français élevés en France, tu vois. Et donc, ils évoluent, eux, dans une culture qui leur est propre, une culture qui se construisent eux-mêmes, qui est à la limite, à la frontière de plusieurs mondes, en fait, à la frontière du monde dans lequel ils vivent, du monde de leurs parents, du monde de leurs grands-parents. Voilà. Et donc, ils sont eux aussi entre... Dans une zone un peu grise, quoi, entre ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à la maison. Et ça, je pense que beaucoup d'enfants d'immigrés aussi l'ont vécu en France, hein, le fait d'avoir une langue peut-être différente à la maison que de la langue de l'école, avoir des habitudes culinaires ou culturelles différentes à la maison et à l'école, d'avoir des adultes référents différents, voilà, dans les différents mondes dans lesquels ils évoluent, donc... C'est intéressant.
Ou en Inde, en plus, il y a ce truc de quand même... c'était marrant, mais j'ai retrouvé un vieux carnet de voyage que j'ai fait à une création sonore avec ma petite sœur et ma mère sur le rapport qu'elles entretiennent avec l'Inde. Je disais que j'avais l'impression qu'on me regardait et qu'on me faisait entrer dans la patrie, entre guillemets, tu vois, dans certaines interactions, qui pouvaient être à la fois violentes et en même temps très inclusives, quoi.
Mais comment est-ce que toi, tu arrives à te sentir toi-même ailleurs et partout à la fois?
Mais en fait, je pense que l'identité et le sentiment de bien-être, il ne vient pas seulement de son rapport à sa culture ou à ses origines. Je pense que c'est une partie de ce qu'on peut ressentir, mais au quotidien, c'est ce qu'on fait, c'est notre manière d'être avec les autres, c'est notre activité professionnelle, sociale, etc., qui nous enrichit, qui fait de nous ce qu'on est. Je ne pense pas que je me définisse uniquement par le fait d'être... une banane, une française asiatique qui revient en Asie. C'est important, effectivement, mais je ne me définis pas uniquement comme ça. Et donc, en Singapour, je suis passée par plein d'étapes où, au niveau de mes activités, je me suis aussi souvent réinventée. Alors, je ne sais pas si le fait de se réinventer culturellement, ça pousse à se réinventer aussi professionnellement. En tout cas, chez moi, j'ai les deux aspects. J'aime bien être entre plusieurs cultures. Enfin, ça ne me dérange pas trop. Et j'aime bien aussi toujours découvrir de nouvelles choses professionnellement.
Est-ce que tu aimerais y retourner ?
Ouais, grave. Ouais, bien sûr. Sans hésitation. Bah, pour que je te disais, pour continuer à la fois faire ces recherches et puis continuer à me remplir de l'Inde, quoi. À renouer avec ce pays, avec mon pays d'origine.
Rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque.